Bonjour à tous, bienvenue au call sur la communication non violente ou communiquer plus sereinement. Donc le call sera animé par Malika à partir du Maroc. D'abord quelques rappels parce que hier on a eu des petits soucis pendant le call sur la sophrologie. Merci de bien rester muté jusqu'à pour la première demi-heure pendant tout le temps de présentation. Donc votre petit micro doit être rouge et par contre après pas de problème pour faire des questions-réponses. Et si vous êtes par téléphone, vous pourrez vous démuter avec étoile 3. Pendant la conférence, si vous aviez des soucis, comme Malika présente, merci de ne pas la perturber, mais par contre, vous pouvez me contacter par link ou par circuit et me dire si vous entendez plus ou si vous voyez plus les transparents. Voilà, maintenant je vais passer la main à Malika qui est certifié en CNV et qui va vous présenter le sujet d'aujourd'hui.
Excusez-moi, j'étais pas là au début, je sais pas qui vous êtes.
Suis Anne Beaumont. Mais je
Pardon.
pensais que vous voyez ma petite vignette avec mon nom.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
D'accord.
Pardon.
Non, non, mais il n'y a pas de souci.
Ok. Bonjour à tous. Merci Anne de m'avoir invité à parler de la CNV durant cette semaine Wellbeing Network. Merci à tous d'être présents à cette présentation. Donc aujourd'hui, je souhaite vous présenter la CNV ou vous faire une petite présentation, plutôt introduction, je dirais, à cet outil que je trouve personnellement extraordinaire, donc qui est un outil de communication. Donc, qu'on va voir très rapidement de quoi il s'agit. Donc, aujourd'hui, la CNV, donc, elle a été créée par Marshall Rosenberg, qui est un psychologue américain. C'est en fait une philosophie et c'est aussi un processus, donc, qui vise à simplifier la communication et surtout un petit peu à éviter, je dirais, à éviter la violence dans la communication. On va voir que la violence, c'est pas que la violence qu'on connaît, nous. On va voir que certains modes de communication ordinaires qu'on fait au quotidien est considéré, selon Marshall Rosenberg, comme une communication violente. On va voir le processus, on va voir les étapes, on va voir aussi quels sont les modes d'utilisation de la CNV. Alors, la CNV, c'est un langage de bienveillance. Donc, c'est ce qu'appelle le Marshall Rosenberg. Il l'appelle, c'est le langage de, c'est l'élan de vie. C'est le langage qui nous connecte à notre élan de vie. C'est aussi le langage de cœur, comme il l'appelle. La communication non violente, donc, elle a été créée par Marshall Rosenberg, comme je disais. Donc, Marshall Rosenberg, il était collaborateur de Carl Rogers, le fondateur de l'approche centrée sur la personne, qui est aussi un psychologue très, très connu. Il a aussi été inspiré, fortement inspiré par Gandhi. Et aussi par d'autres penseurs et philosophes, notamment aussi, il a été inspiré par Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, un penseur indien, et par toutes les personnes qui ont su utiliser la non-violence, la paix, même quand ils sont dans un milieu défavorable, on va dire, dans un environnement qui invite à la violence. Donc, notamment, par exemple, Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi lui-même. Et donc, il a même emprunté la CNV, la communication non-violence, il a emprunté à Gandhi qui avait créé le mouvement non-violence à l'époque. Donc, pour dire que nous pourrons, communiquer avec la violence et nous n'avons pas d'ennemis, nous avons des partenaires. Enfin, si on arrive à faire entendre ce qu'il y a à l'intérieur de nous, on peut se faire écouter et arriver à trouver des ententes et des solutions. Donc, la CNV, son objectif, c'est de nous rappeler ce qui est essentiel dans l'interaction des humains et nous aider à améliorer la qualité de nos échanges et donc de nos vies. Donc, la CNV, elle est pratiquement utilisée au quotidien. Nous pouvons l'utiliser au quotidien, que ce soit dans nos familles, avec nos enfants et également en entreprise. Il y a plusieurs entreprises qui se sont mises à se former et à commencer à pratiquer la CNV. Donc, pour la formation CNV, c'est une formation qui se fait, une première formation qui s'appelle CNV Fondation, donc les fondamentaux. Et puis après, il y a surtout la pratique. Parce que la CNV, on va le voir très rapidement, c'est très vite, on peut vite comprendre comment ça marche. Mais c'est surtout la pratique qui est un petit peu, qui demande un peu d'exercice. Voilà. Donc, pourquoi, sur quoi se base la CNV? Se base sur trois postulats importants. Donc, un, c'est que nous, êtres humains, nous avons tous des besoins. Nous essayons tous d'assouvir à nos besoins. Donc, quel que soit notre âge, notre genre, notre catégorie socio-professionnelle, nous avons tous des besoins. Nous portons mieux quand nos besoins ils sont satisfaits ou au moins quand ils sont reconnus. Quand nous ne savons pas y répondre, nous utilisons la violence malheureusement, mais bon, plus on se porte mieux quand on arrive à satisfaire nos besoins dans un esprit de coopération. Finalement, et je trouve que c'est encore la plus importante de ces postulats, c'est que chacun de nous a des ressources personnelles assez remarquables, très importantes, et quand il reçoit l'empathie qui lui permet de se connecter à ses ressources, donc il peut faire des choses extraordinaires et donc il peut être à 100% à son potentiel. Donc, le postulat de la CNV, c'est qu'on n'a pas de bons et de mauvais, mais on a des personnes qui sont connectées à leurs sources et d'autres personnes qui ne sont pas connectées à leurs ressources. Et donc là, ça renvoie un peu à la reconnaissance ici qui est le sujet d'aujourd'hui dans la semaine well-being. Alors, l'usage spécifique aujourd'hui, la CNV, elle permet à la personne d'acquérir son propre pouvoir. Parce qu'on va voir que ça passe d'abord par le soi, de la communication avec le soi, ce qu'on appelle l'auto-empathie. Résoudre les conflits. Donc, la CNV, donc si vous connaissez un peu le triangle dramatique qui est le concept de triangle dramatique qui explique la notion des conflits, souvent la CNV c'est la solution pour sortir d'un job psychologique ou d'un triangle dramatique, quelle que soit la situation, les circonstances ou le contexte. Ça permet également de réduire le stress, de prévenir le burn-out et ça permet surtout de construire les ponts entre les différences culturelles. Marshall Rosenberg a créé un livre qui s'appelle les mots sont des fenêtres. Donc pour lui, la communication, ça permet d'ouvrir, de connecter donc les êtres humains, donc de créer des ponts entre les fenêtres. Ça permet aussi d'améliorer nos relations, donc créer l'harmonie dans les relations. Ça, c'est vis-à-vis des autres. Oui, c'est OK, vous m'entendez bien?
Oui, oui, moi je t'entends bien.
Oui.
Alors, dans la relation à soi, ce qui est important, c'est que ça permet de développer l'écoute. La CNV, ça permet de développer l'écoute et donc développer l'aisance d'être avec les émotions de l'autre. Accueillir même la violence verbale, on va le voir. ça permet de voir au-delà de ce qui est d'une violence verbale, genre reproche ou quelqu'un qui émet une critique. Donc, avec la CNV, on arrive à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, développer l'aisance avec la colère de l'autre et pouvoir aussi écouter et entendre un non et recevoir, accueillir un non. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écoute empathique. Maintenant, l'expression de soi ou l'auto-empathie, ça permet aussi à ce que la personne puisse dire de plus en plus avec la CNV ce qui lui convient, dire avec respect ce qui ne convient pas et exprimer la colère de façon constructive. Donc, renouer avec la colère aussi, on dit que ça permet aussi de renouer avec la colère et donner à la colère sa vraie et sa bonne place. Et puis savoir faire une demande et savoir dire un non. Donc voilà un peu pour la définition et l'usage spécifique de la CNV. Donc très rapidement, donc un petit rappel de fondamentaux de la communication. Donc aujourd'hui, il y a 5 éléments essentiellement, certainement il y en a d'autres, mais on peut résumer ça en 5 éléments qui déterminent un peu les éléments de communication. Donc on a les mots et leur signification, donc on dit que chacun a son dictionnaire. Le mot respect pour chacun de nous a une signification, au moins quand on évoque respect, chacun il pense à quelque chose, au premier, respect des horaires, respect du code de la route, respect des relations, respect voilà, de l'autre. Donc chacun, le mot respect, ça évoque pour lui autre chose, quelque chose de différent, pareil confiance, pareil justice, pareil. Donc les mots ont chacun de nous à son dictionnaire. Culture pareil, donc nous sommes tous différents, de cultures différentes, culture occidentale, asiatique. Africaine. Éducation, donc chacun de nous a reçu une éducation assez différente, on a fait des chemins différents, on a fait des études différentes, on a été éduqué dans des familles différentes. Dans l'éducation, il y a même une même famille, le premier enfant n'a pas la même éducation que le deuxième ou le troisième, donc c'est ce qui est fait de nous des personnes complètement différentes. Et puis, il y a les expériences passées et tout ce chemin que nous avons fait depuis la naissance et qui nous a donné ce cumul d'expériences passées et que chacune de ces expériences, elle a laissé ses ancrages positifs, négatifs et ses croyances. Et ça vient alimenter un petit peu ce qu'on appelle un système de pensée, notre système de croyances. Et puis, l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on évolue, quoi. Donc, tous ces éléments-là, ça constitue ce qu'on appelle la carte du monde de chacun de nous. Et c'est ce qui fait que nous sommes tous différents. Il n'y a pas une personne sur Terre qui ressemble à une autre personne. Même les jumeaux, selon ces 5 éléments, ils sont différents. Et donc, chacun de nous a sa carte de monde différente. Et donc, chacun voit les choses d'une autre façon. Et quand on communique, chacun de nous, il voit la réalité avec ses propres filtres qui passent par ces éléments-là. Et donc, comme dit l'adage, la carte n'est pas le territoire. Donc, la CNV, justement, nous invite de ne pas s'arrêter à la carte et d'aller explorer un petit peu plus en profondeur ce qu'il y a dedans. Donc, l'être en nous, au-delà de ce que fait apparaître la carte du monde. Voilà, et donc, c'est ce qui me ramène à la partie croyance, parce que, donc, je parlais tout à l'heure des expériences passées et surtout les expériences passées et tous les ancrages que ça nous laisse chez nous. Donc, surtout la notion de croyance limitante. Donc, c'est un ensemble de règles de vie, des choses qu'on prend pour évident et qui le sont pas forcément. C'est des croyances qui sont liées à des expériences passées. Peut-être même on oublie l'expérience, mais on garde la règle, on règle la croyance. Et puis, c'est un petit peu ce genre de croyance qui fait que nous avons des blocages dans des communications ou carrément qu'on arrive à des situations de stress. Et donc, plus ces croyances, donc ils sont créés, ils ont une genèse, on va dire. Donc, on a le schéma là, qui montre comment une croyance elle est créée. Donc là, par exemple, on a la croyance limitante. Un exemple, je suis nulle. Donc, à un moment donné de mon enfance, je me suis dit non, je ne saurais pas faire. Et donc, quand devant une action, qu'est-ce que je fais? Je dis bon, je n'y arriverai même pas. Et donc, je mets pas d'efforts ou peu d'efforts ou pas assez d'efforts pour arriver à l'action. Et donc, le résultat que j'obtiens, effectivement, j'obtiens le résultat comme quoi je ne sais pas faire. Et ça confirme mon hypothèse initiale que je suis nulle. Donc, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de la croyance limitante. Donc, c'est comme ça que ça se crée, hein, ça crée les croyances. Et les croyances, donc, nous avons une liste à côté, mais il y en a plein. Nous en avons chacun de nous, il a toute une liste de croyances. Et puis, avec le temps, hein, plus on fait tourner ce cercle vicieux, avec le temps, ils deviennent naturelles, elles deviennent universelles, elles font partie un petit peu de notre ADN, ça devient même des vrais et du bon sens. On se dit, mais pourquoi ils font comme ça? C'est comme ça que ça doit être. Voilà. Donc voilà, le travail que nous suggère la CNV, c'est de commencer à travailler et à reconsidérer les croyances et de les prendre plutôt comme hypothèse, plutôt comme que règle absolue, et changer un petit peu de regard et dire oui, ça peut être vrai comme ça peut être pas vrai, et puis changer les résultats. Et surtout, comme on sait, comme la nature, elle n'aime pas le vide, donc si on se débarrasse d'une croyance limitante, il faut mettre à la place une croyance aidante. Donc les croyances aidantes, nous en avons beaucoup, fort heureusement, et c'est d'ailleurs les croyances aidantes qui font que nous, chaque jour, on se réveille, on crée un nouveau jour et on crée une nouvelle vie et on se dirige vers notre travail et on fait avancer notre vie. Donc c'est grâce aux croyances aidantes. Mais nous avons chacun de nous un paquet de croyances limitantes, donc ce qui nécessite un petit travail dessus pour les identifier déjà, les reconnaître et puis petit à petit les changer, les remplacer par des croyances aidantes. Ça, c'est de façon générale. Oui, et très rapidement, on va passer aux éléments un petit peu qui entrave la communication ou qui un petit peu, selon le vocabulaire de CNV, vous allez voir qu'on parle beaucoup de langage de vie, langage de cœur. Le vocabulaire, donc ce sont des éléments qui nous coupent de la vie. Donc notamment la critique ou ce qu'on appelle aussi les jugements, surtout les jugements moralisateurs. Et donc, la critique, qu'est-ce qu'elle implique? Donc, elle implique que la personne qui émet la critique, il a raison et que l'autre a tort. Et donc, ça fait partie un petit peu des jeux psychologiques que je dirais qui sont les plus utilisés dans le monde. J'ai tort, j'ai raison et toi, tu as tort. Et c'est un peu la base de presque tous les malentendus, même ceux entre pays et centres. Donc, même des guerres, ils peuvent être à la base, voilà, des positions différentes. J'ai raison et tu as tort. Alors que dans l'absolu, et selon la notion de carte de monde, c'est chacun il a raison selon sa carte de monde. Et donc, les critiques, ça intègre également les reproches, le dénigrement, les insultes, le diagnostic et les jugements moralisateurs. Il y a également un autre élément qui aussi a un grand rôle qui entrave également à la communication, qui entrave à la bienveillance, c'est ce qu'on appelle le refus de responsabilité ou le déni de responsabilité. C'est un peu notre façon d'attribuer nos actes aux autres, attribuer un peu ce qui nous arrive aux autres. Donc, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de la hiérarchie, c'est à cause de la pression des pairs ou des groupes. Donc, je n'arrive pas à satisfaire mes besoins ou à faire mon travail ou à avancer parce que l'autre, etc. Et puis, par rapport aussi aux pulsions incontrôlables. C'est un peu une façon de refuser la responsabilité, donc ce qui implique une sorte d'autonomie qui n'est pas à 100%. Donc voilà. Et enfin, le troisième élément qui aussi entrave à la bienveillance et que nous coupe de la vie, c'est les exigences. C'est notre façon. Donc, on a vu au tout début un slide qui parle des besoins et que nous en avons tous des besoins. Et nous avons certains besoins auxquels on peut y répondre nous-mêmes. Et souvent, dans nos besoins, on a besoin de la collaboration et de la coopération de l'autre. Sauf que, au lieu de lui demander sa collaboration sous une forme d'une demande, on la sort sous forme d'une exigence, explicite ou implicite. Quand on ne donne pas le choix à la personne à qui on fait une demande, c'est explicitement, c'est plus une demande, c'est une exigence. On va voir ça. Les exigences, les blâmes, punitions ou menaces, tu fais ça ou, etc. Donc, tout cela, ça entrave à la communication. Voilà. Et j'arrive au monde de l'entreprise où nous avons tous des objectifs et nous sommes aussi en relation ensemble et nous travaillons ensemble et nous collaborons ensemble. Et dans l'entreprise, plus nous arrivons à obtenir nos objectifs tout en maintenant de très bonnes relations entre collègues, entre pairs, hein, entre hiérarchies, et avec nos équipes, plus on est dans la collaboration, plus on est dans des situations, dans des attitudes gagnant-gagnant où on a des solutions, on a notre solution. Donc, c'est pas ma solution, c'est pas ta solution, c'est notre solution. Tout le monde est gagnant. Mais pour cela, qu'est-ce dont on a besoin? Un, nous avons besoin de l'accès. Nous avons besoin d'avoir de bonnes relations, une bonne connexion les uns aux autres. Nous avons besoin du temps, c'est clair, on ne peut pas collaborer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc on a besoin de prendre le temps de se connaître avant de pouvoir travailler ensemble. Et puis, surtout, nous avons besoin du courage, parce que nous avons quelque chose qui entrave, même si ça ne fait pas partie de la liste que je viens de passer, mais nous avons l'ego des fois qui nous joue des retours et qui fait que chacun il est dans sa tour et chacun il est sur sa position et dit que c'est moi qui ai raison, et l'autre qui a tort, etc. Et des fois, nous avons besoin juste d'un courage pour descendre un petit peu de sa tour et d'aller rejoindre l'autre et de voir les choses avec son spectre. Peut-être que l'autre a raison et l'inviter aussi à revenir avec nous et de monter notre tour de la même façon. Et certainement, il va trouver lui aussi que nous aussi, on a raison. Et donc, c'est pas que on a quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort, on a tous les deux qui ont raison, mais c'est juste chacun de sa position, il ne voit pas ce que voit l'autre. Donc, ça, c'est la meilleure des positions. Donc, c'est quand on est en collaboration. Donc, le symbole qu'a donné Barry Hart, hein, qui a créé cette matrice, c'est la girafe. La girafe aussi, c'est le symbole qu'a choisi Marshall Rosenberg pour la communication non violente, la CNV. Maintenant, quand on n'est pas dans ce mode-là, nous sommes dans trois autres mondes. Soit on est dans un mode d'imposition, autorité ou compétition, et donc là, on est dans c'est moi qui a raison, et donc ma solution qui doit être prise en compte, et donc on a un gagnant et un perdant. Là, des fois, on a besoin de ça, surtout quand on a besoin de montrer le sens, quand la personne elle est nouvelle, on vient d'intégrer l'équipe, on ne connaît rien, donc on a besoin de un peu d'être dirigé un peu pour comprendre le sens et pour quand on en fait une attitude de tous les jours, donc ça c'est ça crée des problèmes. Donc ici on a les objectifs qui sont atteints, mais on a le niveau de relationnel qui n'est pas bon. Nous avons aussi un autre type, c'est là où on est un peu plus dans l'accommodation. Ça veut dire qu'on privilégie les relations, mais les objectifs ne sont pas atteints. Et donc, on est dans ta solution. Donc, moi, je suis perdant et toi, tu es gagnant. Donc, on s'adapte. On est dans l'adaptation ou plus de la suradaptation. Enfin, il y a une troisième attitude, une quatrième attitude qui est le repli ou la fuite. C'est carrément, il n'y a pas de solution, on a le pardon. Donc, on n'a ni les objectifs qui sont atteints, ni la relation. Donc, on est dans l'évitement, on est dans la fuite. Voilà. Et nous avons le processus CNV qui est en quatre étapes, qui vient répondre à tout cela. Et qui vient nous énoncer comment on peut communiquer beaucoup plus efficacement et authentiquement surtout. Donc le processus, il est en quatre étapes. La première étape, c'est l'observation. Donc énoncer une observation sans juger ni évaluer. On va voir comment. Dire son sentiment, ce qu'on ressent. Et troisième étape, exprimer le besoin, juste le besoin ou les besoins qui sont en relation avec ce sentiment. Et à la fin, demander sans exiger. Souvent dans nos communications, on passe du premier ici vers l'action. Donc souvent, on passe de le triangle là, on passe dans une situation donnée, on passe d'une pensée, donc on met à la place d'observation, nous, on met l'évaluation ou l'interprétation, et donc on génère des pensées. Ces pensées, donc, génèrent des émotions, peut-être colère, peut-être culpabilité, peut-être, je sais pas. Et puis, ces émotions, ils vont directement nous diriger vers des actions. Pas des demandes, mais des actions, donc voilà, et ça nous met dans des raccourcis qui font que notre communication risque d'être mal prise par l'autre, et que alors que au départ on veut la collaboration de l'autre, on veut qu'il nous aide à s'ouvrir à notre besoin. Au lieu de cela, on a quoi? On a une résistance, ou on a une contre, ou on a carrément de l'attaque de l'autre côté. Donc voilà. Donc c'est soit de la résistance, la personne elle ne collabore pas à minima, mais ça peut aller vers du conflit ou voilà. Voilà. Donc on passe très vite vers les étapes. Et donc nous avons la première étape qui est l'observation. Donc l'observation, on voit ici la girafe de Marshall Rosenberg qui prend beaucoup de hauteur. Hein. Elle a des oreilles, elle entend plus que elle. Elle a une vision surtout de loin grâce à sa taille. Donc la première composante de la communication violente, c'est l'observation, et l'observation sans jugement, sans évaluation. Et donc ce que l'on doit surtout mettre le focus sur l'évaluation et la différence entre l'observation et l'évaluation. Donc ici, l'observation, c'est dire les faits, dire les mots, dire le constat, qu'est-ce que je vois. Et puis l'évaluation, c'est quand on met de l'évaluation, quand on diagnostique, quand on interprète. Donc c'est ça l'évaluation. Et en fait, l'évaluation, c'est quoi? C'est que j'évalue les choses à partir de ma carte de monde. Si vous avez un adage une citation de Krishnamurti qui dit « Observer sans évaluer, c'est vraiment la plus haute forme d'intelligence humaine. » Donc, ce qui est un exercice assez difficile. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est très facile de connaître les quatre étapes de la CNV, mais après, c'est surtout au niveau pratique qu'il faut faire pour pouvoir commencer à faire la part des choses et séparer ce qui est évaluation de ce qui est observation. Voilà, donc là, un exemple. Donc, il faut, par exemple, là, on a une phrase, « Quand je vois tes affaires traînent par terre. » Donc, qui traîne, c'est un jugement, c'est une évaluation. Donc, quand je vois les affaires par terre, ça, c'est un constat. Les généralisations, le tu fais, le toujours, le jamais, ça aussi, c'est une évaluation. Donc, au lieu de cela, ça fait trois fois que, par exemple, tu es toujours en retard. Un collaborateur, quand je lui dis tu es toujours en retard, c'est une évaluation. Quand je lui dis mardi, tu es venu à 9h et voilà, jeudi, tu es venu à telle heure. Ou alors, juste, tu es venu deux fois en retard cette semaine. Donc, ça, c'est un constat. tu aurais dû faire ça, tu n'aurais pas pu faire ça, etc. Donc tout cela, c'est des évaluations. Voilà, elle ne finira pas. Donc ça, c'est le diagnostic, c'est bon, je prédis ce que va faire l'autre. Donc elle a dit que, ou je pense, au moins mettre je pense. Ça. Voilà, après, les tu es mauvais, tu es bon, tu es anormal, etc. Tout cela, c'est des jugements. Voilà pour l'observation, on passe directement à la partie sentiment. Et qu'est-ce qu'on met dans sentiment aujourd'hui? Le sentiment, c'est la chose que l'on utilise le moins dans notre langage parce que avec le conditionnement de notre vie aujourd'hui, on passe directement à l'action et on n'explique pas qu'est-ce qui se passe quand je vois ça. Donc directement, ce que suggère Marshall Rosenberg, c'est que face au fait, tout de suite, l'étape après qui vient, c'est j'explique qu'est-ce que ça évoque comme sentiment chez moi. Donc, je me sens triste. Donc, face à ce que je viens de voir, etc., les affaires par terre, peut-être, je me sens triste ou je me sens en colère ou inquiet. Et les sentiments, on les exprime par je, et non pas par tu. Où je me sens et j'exprime mes sentiments, pas le sentiment de l'autre ou l'opinion. J'ai le sentiment que ça, c'est pas un sentiment, c'est pas une expression de sentiment, c'est une expression de santé, de pensée. Quand je dis je pense que et je donne l'opinion, ça, je sens que et une opinion, c'est pas un sentiment. Je me sens. On va voir après. Il y a une liste de sentiments à la fin parce que ce qui se passe, c'est que tellement on se connecte très rarement avec soi-même, on n'a même pas un peu les mots pour exprimer les sentiments. Donc j'ai mis à la fin de la présentation donc toute la liste des sentiments un petit peu. Vous avez les familles la famille joie, les grandes familles, les grandes familles de sentiments et où vous avez un peu tous les vocabulaires qui peuvent aider à utiliser le bon vocabulaire pour exprimer son sentiment. Et nous avons cet exemple-là, les sentiments qui sont interdits. C'est, par exemple, je me sens incompris. Ça, c'est pas un sentiment parce que ça implique une reproche implicite que l'autre, il ne comprend pas. Je me sens insulté, je me sens isolé, je me sens, pas entendu, etc. Tout cela. Quand j'implique l'autre, ça y est, je suis rentrée dans la violence, c'est du reproche. Je suis rentrée dans le langage du jugement. Voilà. Donc, je pense que, moi, ou je me sens. Donc, tout ça, c'est des pensées, c'est pas des sentiments. Donc, les sentiments, ça, c'est, je vous passe ça parce que vous aurez les slides. Donc, ça, c'est un peu rapidement les fondamentaux. Les expressions authentiques, la peur, la colère, chacun le rôle. Donc la peur, elle vient pour aiguiser nos sens et nous protéger, mais elle est déplacée et quand elle est déplacée ou excessive, elle nous paralyse. Par exemple, dans une prise de parole ou quand il y a du noir dans une rue où on commence à courir. La colère, pareil, elle a un rôle super intéressant, c'est que c'est elle qui informe l'autre sur nos limites d'abord. La frustration, elle est positive dans le sens où elle fait circuler une énergie et elle montre à l'autre quelles sont nos limites psychologiques, corporelles et sociales. Mais quand elle devient une réponse automatique à toute situation de conflit, là, ça devient c'est son côté négatif. Pareil, la tristesse, elle est là pour la cicatriser, pour faire un travail de cicatrisation. Mais quand elle s'installe, ça devient une dépression et elle nous enferme dans une spirale négative. La joie, elle n'a pas de côté négatif, elle favorise l'harmonie, elle crée la chaleur humaine. Et puis surtout, avec la joie, on a envie de la partager. Quand on est heureux, on a envie de partager, donc c'est très bien comme émotion. Donc juste ça, c'est un rappel. Et puis vous avez la liste, comme je disais, des sentiments à la fin de la présentation. Après, ces sentiments sont souvent reliés à des besoins. Donc, les sentiments sont reliés à des besoins et le même, la même action, elle peut générer des, selon le besoin de l'instant, ça peut générer des sentiments différents. Donc, on va voir un exemple. Là, par exemple, on a des tranches de citron, enfin des sur la table. Donc, pour quelqu'un, pour une première personne, ça peut faire une colère. Donc, le sentiment qu'elle va ressentir, c'est la colère, parce qu'elle a besoin d'ordre. Elle a besoin à ce que les choses soient mises à leur place et que la table soit nettoyée. Pour une autre personne, elle est heureuse parce qu'il s'agit d'un zeste. Elle en a besoin pour préparer son gâteau. Donc, un même fait, selon le besoin du moment, ça peut générer deux émotions différentes, voire même contradictoires. Voilà. Donc, ce qui nous amène à dire que nos sentiments, ils sont reliés directement à nos besoins. Donc, c'est pourquoi on ne peut pas dire que c'est l'autre qui est la cause de notre sentiment, ou c'est ce qu'a fait l'autre, etc. Mais c'est surtout notre interprétation de ce qu'on a vu ou de ce qu'on a entendu. Donc, la cause, c'est nos besoins à un instant donné et non pas à l'autre. Donc, un autre exemple, nous avons ici, selon trois besoins différents, on a une personne qui aimait de la musique et l'autre, c'est pas une personne, pas un personnage. Donc, ce personnage, s'il a besoin, à ce moment présent, il a besoin du calme, il sera exaspéré. S'il a un besoin de contribution, il sera heureux, parce que c'est peut-être lui qui a ramené le jeu au petit. Et s'il a un besoin d'amusement, donc il va s'éclater, il va commencer à contribuer, enfin faire la fête, quoi. Donc voilà. Donc ce n'est pas ce que font les autres qui nous rend malheureux ou en colère, mais c'est les besoins que nous avons.
Malika, excuse-moi, est-ce que tu peux cliquer sur la barre en bas, sur masquer ? Excuse-moi, je n'ai pas voulu t'interrompre avant. Voilà, merci.
Il n'y a pas de souci. Okay. Merci. Donc je passe directement à la partie besoin, maintenant qu'on a défini les sentiments. Donc pour les besoins, donc c'est la base de la CMV, comme on a vu au premier slide. Donc Marshall Rosenberg, il est défini comment ? Les besoins sont des manifestations de la vie. Nous en avons tous. Ils sont des cadeaux beaux et précieux. Donc plus nous les identifions, plus nous les connaissons, on est de plus en plus satisfait. Plus on est connecté à nos besoins, plus on voit les choses vraiment autrement. Et souvent, dans plusieurs situations, que ce soit de malaise ou d'incompréhension, de confusion, on ne sait pas quels sont nos besoins, quels sont les besoins du moment. Donc là aussi, j'ai une liste à la fin du slide, la présentation, la liste des besoins. Donc, dans ses interventions, Marshall Rosenberg, il utilisait beaucoup la question « qu'est-ce qui est vivant en nous ?» Donc, pour parler de la notion des besoins. Donc, qu'est-ce qui est vivant en nous ? Et qu'est-ce qui pourrait nous rendre la vie plus belle ? Donc, ça, c'est pour aider les gens à exprimer un petit peu leurs besoins. Donc, les besoins, ils sont universels, c'est une énergie vitale qui nous mobilise, donc c'est ce qui nous motive, on est tous à la recherche de satisfaire nos besoins. Ils sont indépendants de tout contexte, ils ne sont pas attachés à une personne ou à un objet ou une action, et ils ont un nombre indéfini de façon de les satisfaire. Donc, les types de besoins, donc on en connaît tous, Et ce n'est pas selon la hiérarchisation de Maslow, ils n'ont pas d'hiérarchie. Les besoins selon la CNV, c'est qu'on peut, selon le contexte, le moment présent, le ici et maintenant, on peut aller jusqu'aux besoins psychologiques et revenir aux physiologiques et revenir à la tête du sommeil. Donc, c'est un peu un mix de tout cela. Les besoins physiologiques, de bien-être, la sécurité, l'empathie, la compréhension, la créativité, jeu, repos de temps, autonomie, sens et spiritualité. Sur quoi on doit faire le focus concernant les besoins? C'est que les besoins, c'est pas forcément un besoin qui soit tout de suite satisfait, mais au moins on a besoin qu'il soit reconnu. Donc la reconnaissance du besoin pour nous, elle est beaucoup plus importante que sa satisfaction. Donc ici, on a un exemple d'une personne ici qui a un besoin d'écoute. Donc tant qu'on ne lui a pas donné l'écoute, elle va commencer à crier, on dit râler dans notre langage. Donc elle a commencé à crier et à râler parce qu'elle a besoin d'écoute. Tant qu'on ne lui a pas donné l'écoute, elle va continuer à crier. Je pense à des clients, je pense à des... Voilà, dans notre contexte entreprise. Et puis, quand on utilise le langage girafe ou le langage CNV, on commence à écouter mieux et à plutôt que de répondre à une violence par une violence, on répond par une reformulation de besoin. Donc, tu es en colère parce que tu aurais besoin de choisir ou tu aurais besoin d'être écouté ou voilà. Donc, et l'autre personne, dès qu'elle est écoutée, dès que son besoin il est reconnu, ça va l'apaiser et la calmer et la ramener vers voilà une discussion plus calme. Donc, Marshall Rosenberg, il dit que tout jugement, toute attaque n'est que la traduction d'un besoin non satisfait ou non reconnu. Dans plusieurs cas, c'est surtout non reconnu. Et plus la violence ou l'attaque verbale elle est grande, plus la valeur, le besoin, ça représente une valeur qui est importante pour la personne. Par exemple, justice, par exemple, reconnaissance, un besoin de reconnaissance. Et plus la valeur elle est importante, plus la personne elle la défend d'une façon assez ardue. On peut même parler d'une personne blessée quand il s'agit d'une personne qui vraiment créé d'une façon assez importante. Donc voilà, la CNV, elle change un petit peu toute la donne, surtout avec ce chapitre écoute empathique. C'est une nouvelle compétence que l'on acquiert avec la pratique de la CNV. Et enfin, on arrive à la quatrième étape qui est la demande pour faire la différence avec l'exigence. Et donc la demande, selon la CNV, la demande c'est l'expression. Une fois que on a fait le constat, on a identifié les sentiments qui sont concernés et on a identifié quelles sont les valeurs, les besoins derrière ces sentiments. Maintenant, on a tous les éléments, toutes les informations pour exprimer une demande, que ce soit à nous-mêmes ou à l'autre. Et donc, la demande, comment elle doit être? Elle doit être bienveillante, elle doit être dans un langage positif, elle doit être claire, précise. On peut aussi demander à l'autre de reformuler notre demande pour qu'on s'assure qu'il a bien compris notre demande. Et surtout, elle doit, ça, le format, il ne doit pas sortir sous forme d'exigence, il doit être une forme de demande. Et donc voilà, surtout comment on va exprimer à l'autre que c'est pas une exigence, il faut l'exprimer d'une façon qui donne l'autre le choix de dire oui ou de dire non, de dire ok ou non ok. Voilà, donc après il y a deux types de demandes. Il y a une demande de connexion. Par exemple, là, juste là, maintenant, ce que je souhaite, c'est comment tu réagis à ce que je viens de dire. ou elle peut être également une demande qui vise une action. Et là, juste là, maintenant, ce que je souhaite, c'est que tu me dises si tu es d'accord de faire ça. Ou est-ce que tu aimerais me dire quelque chose avant? Donc, c'est un peu soit une demande de connexion ou une demande de action. Voilà, et la demande, c'est une proposition, comme on l'a dit, c'est pas une exigence. Donc, c'est je demande, est-ce que voudrais-tu bien, est-ce que tu es d'accord pour. Donc, nos amis anglais, ils disent « Are you happy to do that ?» Donc, est-ce que tu es content, tu serais heureux de faire ça. Donc, c'est un petit peu dans le même sens. Donc, est-ce que tu es d'accord, voilà. Tu voudrais bien, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu voudrais bien. Donc, c'est un peu toujours on demande à l'autre est-ce que ça fait ça, est-ce qu'il est OK avec ça. C'est pour s'assurer que c'est pas une exigence, mais c'est plutôt quelque chose qui est en lien avec son élan de vie, lui aussi. Donc, je résume, le processus CNV, c'est 4 étapes. Le bonhomme, il s'appelle OSBD, donc c'est un peu le bonhomme qu'on a vu ici. Voilà, ce bonhomme, c'est l'OSBD, c'est les initiales de observation, sentiment, besoin et demande. Donc l'OSBD, c'est observer sans juger, identifier le sentiment, reconnaissance du besoin et formulation d'une demande négociable qui s'attend à un oui ou un non et qui donne le choix à l'autre. Je souhaitais, aujourd'hui on est dans la journée de la gratitude, je souhaitais vous présenter un exercice, donc un cas pratique. Donc la CNV, comme je disais tout à l'heure, c'est une formation, c'est 2 ou 3 modules de formation approfondis. Mais c'est surtout de la pratique. Donc, il y a une association de la CNV en France, il y a une association en Belgique, partout un petit peu dans le monde. Au Maroc, il n'y en a pas. Donc, nous, on est plus, on est dans le network. Enfin, on en a les deux. On a les deux qui sont représentés à Casablanca, des Français et des Belges et des Marocains. Donc, et on se rencontre dans des groupes qu'on appelle des groupes de pratique. Et donc, c'est dans les groupes de pratique que l'on fait les exercices CNV. Donc là, par exemple, c'est un exercice gratitude. Donc, c'est pour exprimer une gratitude à quelqu'un. Donc, il y a 3 composants d'un remerciement. Donc, le premier, donc j'exprime les actes concrets qu'a fait cette personne et qui ont contribué à mon bien-être. Donc, en commençant par quand tu as fait ça, donc on décrit ce qu'il a fait et que nous avons apprécié. Et puis, tout de suite, on met quels sont les besoins, ce qu'a fait la personne, ça a répondu à quels besoins chez nous, quels sont les besoins qui ont été satisfaits grâce à cet acte-là. Et puis, à la fin, exprimer quels sont les sentiments nés suite à la satisfaction de ces besoins. Donc, c'est une façon d'exprimer la gratitude. Donc, je vous invite à utiliser beaucoup cet exercice de gratitude avec vous-même, parce que c'est important de se remercier aussi, parce qu'on fait pas mal de choses intéressantes pour nous-mêmes, et avec les autres. Donc, utilisez cet exercice de gratitude. Un autre exercice assez intéressant que j'utilise beaucoup, je travaille aussi dans le domaine associatif et je travaille surtout dans des écoles. Dans le milieu scolaire, j'utilise ça avec les adolescents, surtout. Mais c'est avec les profs aussi, parce que j'interviens avec les profs et avec les élèves. C'est un exercice extraordinaire qui s'appelle la piste de danse. Donc la piste de danse, il y en a beaucoup, donc j'ai choisi 2. Donc, la première, la danse de l'auto-empathie. Donc, ici, ça commence par là. Donc, ça, c'est carrément, j'imprime, c'est une page A4 par étiquette. Et je la mets par terre, je la dispose de cette façon, et je me mets ici. Donc, je me mets ici sur jugement et reproche, et j'accueille mes reproches. Pourquoi on parle d'exercice d'auto-empathie? C'est quand je me reproche des choses. Je culpabilise, je me reproche quelque chose. C'est une forme de violence, selon la CMV. Alors, ici, je me positionne ici et j'accueille mes reproches, tous. Et puis, une fois que j'ai fini, j'ai tout dit, je me positionne ici et je reformule toutes ces reproches-là en langage CMV, ça veut dire en mode observation. J'exprime les faits ici. J'enlève tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est expression de reproche, et là, je mets que les faits. Ensuite, je me positionne ici et j'émets les sentiments. Quand je m'exprime ici les sentiments, donc j'exprime que les sentiments. Quand quelque chose qui sort, qui ressemble plus à des reproches, il faut que je revienne à cette case. Qui sont plus des faits, je reviens à cette case. C'est pourquoi on appelle ça prise de danse, parce qu'on fait des va-et-vient entre les cases. Une fois que j'ai identifié tous les sentiments qui sont en lien avec ce que j'observe, je passe à la case besoin et j'essaie d'identifier tous les besoins. Donc les besoins, j'identifie le premier besoin, le besoin derrière le besoin, les valeurs après le besoin. Donc j'identifie l'ensemble des besoins qui sont en jeu. Une fois que c'est OK, à ce moment-là, je émets les demandes. Donc la demande que je pourrais adresser à moi-même d'abord, parce que c'est moi qui me fais des reproches, donc je liste la demande ou les demandes que je me fais à moi-même. Je liste aussi la demande que je pourrais faire à l'autre, peut-être une autre personne qui est concernée par cette situation, et aussi que je pourrais adresser aux autres. Et puis, on va voir que ça se passe par le corps. Hein. Ces exercices-là, c'est une sorte. Voilà. Donc je traverse des choses. Une fois que j'arrive ici, une fois j'arrive ici, je me sens beaucoup plus libérée de ce que je ressentais avant, tous les ressentis que j'avais quand j'étais en mode reproche. Une fois que tout ça est fait, donc je passe à la demande au moment présent et je fais une demande au moment présent. Donc ça veut dire une demande pratique de tout de suite, tout ce que je peux faire. Donc ça, c'est la danse auto-empathie. J'ai aussi choisi la danse croyance. Donc on a vu au départ la notion des croyances et comment on peut travailler sur nos croyances et les changer. Mais avant de travailler les croyances, on ne peut pas dire oui, j'ai cette croyance limitante, oui, je veux la supprimer, je veux qu'elle parte. Une croyance, elle est là, elle répond à quelque chose. Donc il faut d'abord que je l'écoute et je vois à quoi elle répond, à quoi elle a besoin, et puis à ce moment-là, je pourrais la, elle va pouvoir partir très facilement. Donc je me mets ici sur ma croyance et j'exprime et je cite qu'est-ce que ma croyance, en quoi elle se manifeste, quand est-ce qu'elle se manifeste, etc. Et je me positionne ici et je mets les sentiments autour. Qu'est-ce que ça me donne comme sentiment quand je suis dans cette croyance? Et donc je liste les sentiments. Une fois que c'est fait, je passe à la case à quoi elle me sert, parce que souvent la croyance, elle est là pour faire quelque chose. Donc c'est quelque chose que j'ai mis à un moment de ma vie, j'ai mis pour répondre à un besoin. Peut-être elle est en train de me protéger sur quelque chose. Souvent, hein, souvent notre inconscient, il a une mémoire, il prend tous les, enfin c'est un résultat de décision, comme je disais tout à l'heure. Des expériences passées, et je passais une mauvaise expérience et j'ai pris une décision, et cette décision est devenue une croyance après. Donc voilà, face à une situation qui ressemble à celle-là, voilà comment je vais réagir. C'est comme ça qu'on les appelle croyances, parce qu'elles nous ramènent toujours à la même situation, voire même la même émotion. On ressent la même émotion. Et donc, il faut quand même essayer de d'identifier à quoi ça me sert à aujourd'hui. Et une fois que c'est fait, je passe vers qu'est-ce que ça me coûte? Maintenant, quel est le revers, quel est le côté négatif? Qu'est-ce que ça me coûte aujourd'hui, tout cela? Et une fois que j'ai identifié, je passe à la partie ressenti, mais avant ça, je dis que maintenant, avant de remplir le ressenti, je dis maintenant, sans cette croyance, comment je me sens? Donc, je fais un petit peu un exercice de visualisation, de futurisation. Donc, je dis, maintenant, je n'ai plus cette croyance, comment je me ressens? Donc, je mets le nouveau sentiment que je souhaite mettre en place et puis je passe à la case suivante qui est la devise. Donc, la devise, ça veut dire que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les jours, dans les semaines qui viennent, maintenant, sans ces croyances, comment je suis, comment je me comporte, comment j'agis, comment je me sens, etc. Et donc, quel est mon nouveau devise? Ma nouvelle devise ou mon nouveau slogan, c'est la nouvelle croyance aidante que je mets à la place. Okay? On va voir qu'une fois que je suis dans la case devise, ça y est, la croyance n'est plus là parce qu'elle avait tout juste besoin d'être écoutée. Et une fois que c'est que j'ai identifié ma croyance aidante, je passe à la dernière étape qui est les 4 P. Et les 4 P, c'est une action concrète que je demande, donc c'est le plus petit pas possible ici et maintenant, là maintenant. Et donc je prends un petit engagement sur, je sais pas, le jour qui vient ou quand est-ce que je vais rencontrer une situation qui ressemble à, dans laquelle j'utilisais ma croyance, mais que cette fois-ci je vais utiliser ma nouvelle croyance aidante. Donc voilà pour l'exercice piste de temps. Je l'utilise souvent, hein, en famille, avec mes enfants, avec des collègues, c'est vraiment très utile comme exercice. Voilà, Marshall Rosenberg, il y a plusieurs citations, mais je choisis trois hein, qui me paraissent assez intéressantes. On a le choix dans notre vie entre être heureux et avoir raison. Donc ça, pour le dilemme et la binarité, avoir raison et tort. On a le choix dans notre vie entre avoir raison et être heureux. On ne peut pas toujours avoir raison, donc le mieux c'est de choisir d'être heureux. Tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait, ça c'est important. Tout conflit, toute violence, c'est une expression tragique d'un besoin insatisfait. Et c'est dangereux d'enseigner à des enfants que nous n'avons pas d'autre choix que de faire ce qu'on les dit. Après, ça devient une croyance. Il a toujours, après une fois qu'il a quitté la famille, il va attendre à ce que dans l'école on lui dise ce qu'il fait, et dans l'entreprise, une fois qu'il arrive en entreprise, il va attendre à ce qu'on lui dise ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'on a des gens, des adultes qui disent je ne peux pas faire autrement, je n'ai pas le choix, je suis obligé, je dois faire. Et donc la CNV. Il y a beaucoup d'exercices dans ce sens de comment changer toutes nos croyances autour de je dois, j'ai pas de choix, vers je choisis. Donc tout un exercice aussi qui se fait sur la notion de choix. Des livres, surtout je vous conseille pour si vous êtes des lecteurs. Celui-là, c'est la référence. Les mots sont des fenêtres ou bien sont des murs. Ce sont des murs. Ça, c'est la référence de Marshall Rosenberg. Celui-là, c'est un tout petit cahier. La communication non-violente au quotidien, c'est pour découvrir. Et c'est aussi, il y a des exercices qui permettent de s'exercer sur les quatre processus. Il est très, très utile. Donc pour démarrer, celui-là aussi il est beaucoup plus détaillé. Et nous avons Thomas Dansbourg qui a été formé auprès de Marshall Rosenberg, qui donne d'ailleurs, c'est un Belge, qui donne beaucoup de conférences sur la CNV. Et qui a écrit un livre il y a 10 ans qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai, qui est très très utile. Donc il reprend toutes les notions de la CNV avec des exercices. C'est une autre façon de parler. C'est un très beau livre aussi que j'ai dans ma bibliothèque. Puis devenir son propre médiateur. Donc dans tous ces livres-là, on va trouver que avant d'aller travailler sur la communication avec l'autre, c'est surtout travailler sur l'auto-empathie. Travailler sur la communication avec soi-même. Parce que si on est dans la violence avec l'autre, il y a beaucoup plus de violence envers soi-même que l'on s'inflige tous les jours. C'est pourquoi Le premier conseil que donne Marshall Rosenberg, c'est d'abord travailler sur l'auto-empathie. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de, on revient vers le soi, devenir son propre médiateur, parce que ça suppose qu'on a des parties qui se chamaillent à l'intérieur de nous, et que, voilà. Nous gagnerons à faire ce travail-là de créer plus de paix à l'intérieur de nous.
Merci, voilà. Malika.
Merci à toi. Et donc, voilà, comme je disais, il y a la liste des sentiments, ce qu'on ne doit pas utiliser, et la liste des besoins fondamentaux.
Voilà. Oui, je partagerai les transparents en même temps que je partagerai l'enregistrement sur Blue Kiwi, sur Wellbeing France et sur le Blue Kiwi Besoin. Ben, merci beaucoup, c'était très riche. Peut-être s'il y a des questions?
Oui, j'aurais voulu savoir si au Maroc, je crois que tu es basé au Maroc, s'il y a eu des applications chez Atos, si tu l'as mis en œuvre quelque part chez Atos.
Alors dans Atos, j'ai donné pas mal de, enfin au moins trois sessions de formation. Et aussi, je l'applique moi-même avec mes équipes. Et quand j'ai un conflit d'équipe, j'applique aussi, hein, parce que il y a un module médiation. On peut devenir un médiateur, on peut devenir transmetteur. Là, par exemple, moi, je suis transmetteur. On peut devenir aussi médiateur et faire de la médiation en cas de conflit pour faire parler, pour faire exprimer les deux parties. D'une façon CNV et pouvoir trouver une solution. Donc ça, j'utilise assez souvent dans mon équipe, avec mes collègues aussi, je transmets. Mais officiellement, j'ai fait aussi trois sessions de formation CNV.
Ça sera, oui, pour le 6, c'était l'analyse, en fait.
Oui. Allô?
Oui.
Oui, Jean-Michel Père, donc je suis une formation CNV avec François Skeller, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc la une des grandes prêtresses de la CNV en France.
La CNV en France, l'association CNV France, oui.
CNV France. Et donc comment on va mettre ça en pratique chez Atos, là, comment on va faire, parce que, est-ce qu'on peut créer des groupes d'empathie, est-ce qu'on peut développer la CNV chez Atos? Comment on fait?
Alors justement, on doit en parler avec Malika.
Oui, alors.
On réfléchissait à faire un jeudi du partage ou des séances de pratique. Il faut qu'on en discute plus entre nous.
Oui, est-ce qu'on peut faire? Moi, je souhaiterais. D'abord, je suis reconnaissant d'avoir pris en compte la CNV.
Formidable, hein, si on a. Je propose que ceux qui sont volontaires, ils répondent quand je posterai sur BK et vous reveniez vers moi à un beau monde. Et voilà, qu'on crée un.
C'est Anne Beaumont qui est qui a la manœuvre en France. C'est Anne Beaumont qui pilote ça en fond la France. Tu es Anne Beaumont.
Oui, c'est Anne Beaumont.
Écoute, ouais. Anne, je reviens vers toi.
Parce que je m'occupe du well-being de la GBU France.
D'accord, je reviens vers toi pour te faire part de mon expérience.
Formidable, oui. Parce que ça fait un an.
Très, très moteur là-dessus. Hein.
Mais je ne sais pas comment le faire, en effet.
Eh bien, écoute, j'en ai parlé à Françoise Keller et tu peux te rapprocher d'elle, de ma part.
D'accord. On se recontacte après le call. D'accord, parfait. Merci.
Excuse-moi, excuse-moi d'avoir fait.
Merci. Oui, nous avions pensé à nous et moi à monter un atelier empathique, genre les jeudis de partage, ou voilà, un peu comme dans ce qu'on fait dans les groupes de pratique. Je ne sais pas si tu en as fait, les groupes de pratique, dans les groupes
non,
de pratique.
Non, mais j'ai fait une formation de 7 jours au total.
Très bien, très bien.
Donc, c'est vraiment super. Hein. Je recommande à toutes, j'aimerais que ça se développe, que tous les salariés d'Atos, les 100 000 salariés d'Atos soient formés dans mes plus rêves les plus fous.
Très bien.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour, Delphine Tartrou. Je voulais savoir justement, donc parce que là c'est théorique, hein, quand on voit ça pour la première fois, est-ce qu'il va y avoir des sessions qui vont être accessibles via le site de formation ou tout ce genre de choses sur Atos Besoin ou autre site Atos?
Alors aujourd'hui c'était une séance de sensibilisation, en effet, de vous transmettre les principes. On voulait voir après quel était l'intérêt des collaborateurs. Si on voit qu'il y a de l'intérêt, et ça a l'air d'être le cas, en effet, on va réfléchir avec Malika comment faire, des sessions par circuit, soit un autre moyen. On va en rediscuter, on reviendra vers vous.
D'accord, ok. Merci.
Voilà. Merci. Merci pour l'intérêt.
Merci. C'est Cindy Martinez à l'appareil. J'ai eu aussi le même réflexe, c'est d'aller voir dans l'outil de formation, si en tapant CNV, s'il y avait déjà quelque chose en place. Donc, c'est aussi un intérêt pour le sujet. Donc, je pense que...
Anne, fais attention.
Pour information, excusez-moi, dans la formation AEP manager, il y avait des éléments qui se rapprochaient un peu de la CNV. Mais je voudrais faire quelque chose de plus grande ampleur, voilà.
AEP,
c'est Atos Excellence Programme. Ça a été, certains managers ont eu cette formation récemment.
Ils ont fait une formation sur l'intelligence émotionnelle, en fait, mais pas trop sur la CNV.
Ben, ça se rejoint. Sur comment mieux dire merci, tout ça.
Ah oui, c'était assez restreint encore en termes de population ciblée, quoi.
Que les managers.
Oui, oui, c'est pour ça qu'on peut faire après des choses en dehors de la formation, mais qui soient plus dans la pratique et dans l'échange.
D'accord.
Mais toutes vos idées sont les bienvenues. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, et puis on va en discuter avec Malika et les autres contributeurs.
Merci en tout cas.
Anne, les slides, tu les mets sur BlueKiwi ou tu les mets où? Ou tu me les envoies ou...
Je vais les mettre sur BlueKiwi, en même temps que je mettrai l'enregistrement. BlueKiwi Wellbeing France et BlueKiwi Besoin.
D'accord.
Ok, merci beaucoup. La session était super intéressante.
Merci. Oui, c'était très riche. Merci Malika.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.